Le feuilleton de la France.
À Bordeaux.
Saint-Terme ou Tréramcou.
Le feuilleton de la France.
À Vestric et Condillac.
À Clichy.
À Ajaccio.
À Clermont-Ferrand.
Le feuilleton de la France.
Pas de dimanche de campagne ce soir, bien évidemment. Alors, en attendant notre soirée électorale, on vous propose jusqu'à 19h une balade en France. Il s'agit de la rediffusion d'un certain nombre de reportages que vous avez pu entendre depuis début janvier à 7h15 sur France Inter. Une semaine par mois, nous avons diffusé des reportages long format. C'était notre feuilleton de la France. Si vous avez raté certains épisodes, eh bien c'est l'occasion ce soir de les entendre ou de les réécouter, et ils le méritent.
À Chabeuil.
À Schiltigheim.
À Levallois-Perret.
À Bouilly.
À Cussy-les-Forges.
Nos reporters sont allés prendre le pouls du pays, histoire de comprendre les aspirations du moment. Ils sont allés partout, y compris en Outre-mer, voir ceux qui travaillent, étudient, enseignent, qui s'inquiètent, qui espèrent, qui se battent, mais aussi celles et ceux qui se découragent, qui ne croient plus à rien, se sentent délaissés, oubliés, surtout dans certains territoires, ceux qui gardent le moral aussi, quoi qu'il arrive, et il y en a. Pour ce premier Tour de France, nous allons sillonner le pays autour de trois thèmes. La jeunesse, tout d'abord, puis la ruralité et enfin le lien social ou le vivre ensemble, pour reprendre une expression un peu passée de mode. Le feuilleton de la France XXL, c'est parti, avec Fred Milano à la réalisation et Philippe Duclos à la technique.
Le feuilleton de la France, Claire Servageant sur France Inter.
Et pour commencer, une première étape en Alsace, et plus précisément à Schiltigheim, dans la banlieue de Strasbourg, où s'est rendue Béatrice Duguay. Elle est allée à la rencontre de jeunes basketteurs dans un club de la ville pour voir le lien qu'ils entretiennent avec la politique.
Le feuilleton de la France à Schiltigheim dans le Bas-Rhin.
Une pause dans la séance des lancers francs, la sueur dégouline sur les visages. Souffle repris, Mathieu 19 ans, Lilian 20 ans, Hussein 19 ans se disent que les prochains dimanches d'élection, ils pourraient préférer leur gymnase au bureau de vote, leur bulletin dans l'urne en avril, ça n'est pas acquis.
Ouais, de tous mes amis, déjà, je suis celui qui s'intéresse le plus, alors que je regarde de loin sans trop m'y intéresser.
Moi, la plupart des gens que je connais, il y en a très peu qui iront voter. C'est vrai que notre génération, la politique, on s'y intéresse pas vraiment.
Je me sens pas vraiment hyper concerné, dans le sens où je me dis que mon vote ne changera rien.
Et tu pourras pas dire, je râle mais j'ai rien fait pour que ça change. Je pars du principe que même si on n'est qu'une voix parmi tant, y a quand même un petit impact, parce que des fois ça joue pas à grand chose.
Contradiction apportée par Sorenza, 24 ans, qui entraîne des plus jeunes à la U Schiltigheim. Et argument entendu par Mounia, 20 ans, étudiante en pharmacie. Ce sera une émouvante première pour elle.
C'est l'espoir de pouvoir compter sur un gouvernement qui aide les jeunes, les étudiants. C'est aussi une responsabilité. J'ai entre mes mains la possibilité de choisir qui je veux voir au pouvoir.
Je me dis que j'ai d'autres choses à penser ou à faire dans ma vie.
Vous aurez compris que la présidentielle n'est pas la priorité d'Abdallah, 19 ans. Comme il a raté son bac pro après le confinement, il travaille aujourd'hui. Pas sûr que son bulletin ait de l'impact. Il ne veut même pas perdre de temps à s'en soucier. Il veut juste rattraper le temps perdu pendant la pandémie.
Ce que nos parents vivaient à notre âge, c'est pas la même chose que nous, on vit à notre âge. Des pandémies, des trucs comme ça, c'est... Avant, on vivait sans trop se soucier. Moi, je préfère vivre ma vie. Toujours ce qu'il y a à prendre, je le prends.
Pour politiser ces jeunes, encore faut-il s'adresser à eux avec les bons outils. Ils le disent tous.
Quand ils utilisent la télévision ou les journaux, en fait, les jeunes ne suivent pas ça. Les jeunes sont sur leur téléphone.
On est la génération Z, vraiment imprégnée par les réseaux sociaux. Et c'est là où on s'informe, en fait.
Du coup, c'est à travers ces plateformes-là qu'on pourrait nous communiquer certaines informations.
Moi, sur TikTok, j'y suis souvent et je vois les comptes des politiques, tout ça, et c'est les seuls moments où je les regarde vraiment.
Le ministre des Transports s'est créé un TikTok pour s'adresser à la jeunesse. Mais le contenu qu'il propose, c'est pour des enfants de 15 ans. On pense souvent que notre génération, elle prend pas le temps de s'intéresser aux vraies choses. Mais par exemple, le TikTok, c'est souvent des vidéos de quelques secondes. On se dit que quelques minutes, ça serait beaucoup trop, alors que en soi, les gens demandent de l'information concrète.
Et surtout aborder des points qui nous concernent directement, nous les étudiants, quoi.
Cette génération n'est donc pas si indifférente. Elle sait défendre des causes via les réseaux, pas dans la rue. Elle est engagée à son niveau, Noura, dans son club, par exemple.
Je suis coach pour des filles de 9-10 ans. Il y a tout type de culture qui se rencontre. Et c'est à travers le basket qu'on se rassemble au final. Et j'essaye vraiment d'inculquer des valeurs de vivre ensemble,
de partage, de fair play. C'est des choses toutes bêtes, mais c'est pour construire des personnes responsables et qui ont cette considération de l'autre.
Préoccupation écologique également, avec des actions collectives dans Strasbourg pour Mathieu. Ces jeunes agissent peut-être aussi en rapport avec leur maturité, plaide Hussein.
Mais en fait, adulte, c'est un bien gros mot. Si on définit adulte à avoir juste 18 ans, oui, forcément, oui, je suis adulte. Mais pour moi, je suis encore un gamin, même si j'ai déjà un appartement, un loyer, des contraintes, des responsabilités. J'ai 19 ans, je suis pas encore un adulte, en tout cas pas accompli.
Certains de ces jeunes se disent quand même attentifs aux circonstances politiques. Leur mobilisation en avril pourrait en dépendre.
Il y a jeunesse et jeunesse. Ceux qui font partie de la future élite de la nation ont sans doute plus de facilité à se projeter dans l'avenir. Ce qui ne veut pas dire qu'ils soient plus politisés. C'est ce qu'a pu constater Sonia Princé. Elle est allée à HEC, la plus prestigieuse école de commerce du pays. Rencontre avec 4 étudiants sur le campus de Juillan-Josas dans les Yvelines. Rencontre à la cafétéria, pardon, on ne dit plus comme ça, on dit le HEC Coffee.
Le feuilleton de la France.
À HEC Paris, Juillan-Josas.
Ils ont tous les 4 21 ans et un parcours déjà brillant. Diane de Bettigny vient de Neuilly-sur-Seine, banlieue parisienne privilégiée, et prépare un double diplôme en droit des affaires et fiscalité. Elle ne choisira pas entre son métier et ses enfants plus tard.
C'est sûr qu'à HEC, on est formé pour faire de belles carrières et c'est génial et on est très bien formé à ça, je pense. Mais je ne suis pas du tout prête à tout sacrifier pour ma carrière, pas du tout. Un des plus grands défis que je vois pour ma vie plus tard, c'est d'arriver à concilier une carrière assez exigeante et une vie de famille, une vie de couple. Plus personne n'est prêt à travailler jusqu'à 3h du matin sans voir sa famille. Enfin, je pense que vraiment c'est une minorité maintenant, alors que ce n'était pas forcément le cas à la génération de mes parents, je pense.
Pour ces jeunes, les priorités ont changé. Jules Varin, originaire d'un petit village près de Toulouse, se destine au conseil en économie. Il veut pouvoir se lever chaque matin en se sentant utile. Il serait même prêt à renoncer à une partie du salaire moyen à la sortie d'HEC qui est de 5000 euros brut par mois.
Quand on sort d'une grande école, on s'attend forcément à avoir des salaires un petit peu élevés, au moins par rapport à la moyenne des étudiants. Mais je pense que arriver à faire des choix forts sur ma carrière pour que ça me plaise, c'est plus ça qui m'attire, plutôt que se concentrer sur des aspects de rémunération de court terme et qui peuvent me mener dans une voie qui me plairait moins.
Et Jules sera exigeant, pas question de travailler pour des grands groupes pétroliers ou pour Amazon.
Une entreprise qui ne ferait pas attention à son impact environnemental, c'est quelque chose qui peut être problématique. Une entreprise qui, par exemple, n'aurait pas un impact sociétal positif, qui peut traiter mal ses employés, enfin, il y a des exemples comme Amazon, etc. C'est des entreprises sur lesquelles on peut se poser des questions. Et je pense que c'est aussi ça que les employeurs attendent, c'est des personnes qui ont des convictions.
Des convictions, Laura Dacosta en a, elle aussi. Elle est présidente du BDE, l'association qui regroupe les étudiants. Elle voudrait concilier valeurs humanistes et domaine du luxe où elle aimerait travailler.
Mettons Louis Vuitton, Maison Cartier, Fondation Vuitton, Fondation Cartier, qui font beaucoup de mécénat. Ça me plairait pas mal de voir comment est-ce que le luxe peut faire de la philanthropie. C'est pas parce que, par exemple, on fait des choses complètement déconnectées de la réalité, très chères, que pour autant on peut totalement perdre de vue qu'il y a encore des gens qui auront toujours besoin d'aide, aider des enfants, etc. Je suis dans une association aussi qui s'appelle Rêve d'enfance. On rend visite à des enfants dans les hôpitaux. On organise une croisière pour ceux qui sont en rémission de cancer en été. Et dans le cadre d'un partenariat, on a échangé avec la maison Hermès. Ça nous permet de ne pas se déconnecter, parce que c'est souvent le reproche qu'on fait aux élèves en école de commerce, qui sont déconnectés des réalités. Or, quand on y vit, on se rend compte que non, pas du tout.
Diane, Jules, Laura et sa camarade de promo Élise Buzyn voteront pour la première fois à une élection présidentielle. Ils ont bien conscience d'être un peu à part parmi les étudiants de leur génération, qui sont 60% à envisager de s'abstenir, selon un sondage IFOP paru en décembre.
On est plutôt surpris des chiffres qui sont sortis sur les jeunes qui ne vont pas aller voter. Parmi mes amis, c'est pas représentatif. On va voter, nous, je pense. Donc on suit un peu, pour l'instant, un peu de loin, mais voilà, on suit les débats, on regarde un peu et on va se positionner quand il faudra se positionner.
Diane et Jules aussi s'intéressent à la politique, mais surtout par devoir.
Si on est amené à diriger des entreprises, je pense que c'est indispensable. Mais d'une manière générale, tous les citoyens ont un devoir de s'y intéresser, je pense.
On a des choses à dire et c'est la première manière de le faire, avant d'aller le dire par exemple aux manifestants, etc. C'est un droit et c'est aussi une obligation en tant que citoyen de voter.
La politique ne les fait pas rêver. Ces 4 étudiants pensent plutôt que c'est au sein des entreprises qu'ils feront davantage bouger les lignes dans la société. C'était un reportage de Sonia Princé, notre spécialiste éducation à la rédaction de France Inter. Sonia qui, bien évidemment, est aussi allée écouter des enseignants
C'est notre troisième étape ce soir. Elle nous conduit à Clermont-Ferrand, au lycée Ambroise Brugière. Direction la salle des profs, regard croisé sur un métier dont ils peuvent dire du bien et du mal pendant des heures.
Le feuilleton de la France.
Au lycée Ambroise Brugière.
À Clermont-Ferrand.
Devenir enseignant comme ses deux parents et le rester toute sa vie était une évidence il y a 20 ans pour Johan, professeur de mathématiques.
Autant quand j'étais enfant, je me disais que la vie de mes parents était quand même relativement agréable, autant maintenant, je ne suis pas sûr que je conseillerais vraiment à mes enfants, par exemple, de faire ça comme travail. Alors je ne suis pas du tout aigri ou complètement négatif. Enfin, je fais mon travail avec entrain, j'apprécie beaucoup, mais on nous demande de faire de plus en plus de choses dans des délais complètement farfelus. On apprend du jour au lendemain qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, pour des conditions salariales qui sont quand même vraiment pas terribles, quoi. Moi, ça fait 20 ans que je fais ce métier et je dois avoir 2200 euros maximum.
Ça reste un très beau métier, hein.
Ah oui, c'est le plus beau métier du monde. Ma mère serait pas d'accord parce qu'elle était infirmière, donc c'est le deuxième plus beau métier du monde.
Nathalie Baraduc, 25 ans de carrière. Élise Fonck-Synthès, 4 ans de carrière.
On a beaucoup de reconnaissance de la part des élèves. Ils disent souvent que je suis plus stressée qu'eux pour leur avenir, par exemple.
Ça reste un métier de passion. Moi, je suis toujours passionnée, même si les conditions sont plus compliquées.
Vous avez un petit peu de temps maintenant ?
Je suis pas sûre qu'il soit bon que je parle parce que je suis que contractuelle.
Des contrats d'un an renouvelés depuis 10 ans pour cette professeure d'économie-gestion.
Ça, c'est un statut qui est invivable. Certains ne peuvent pas prendre le risque de passer le concours et d'aller se retrouver à l'autre bout de la France, quoi. Moi, c'est mon cas, j'ai 3 enfants, 2 en garde alternée. J'ai 46 ans. Si j'accepte et que je passe le concours et qu'on me dit Lyon, ne serait-ce que Lyon, il faudra faire un choix drastique entre la garde de mes enfants et mon job. Et là, le choix, il sera automatique. Ça sera mes enfants.
Je vais pas tarder, faut que je fasse voir.
Anaïs Arnaud-Garcia devra peut-être aussi faire ce choix. Cette jeune professeure stagiaire est enceinte et sera affectée dans une autre académie à la rentrée prochaine, loin de chez elle.
Aujourd'hui, quand on sait que la majorité des enseignants deviennent enseignants entre 25 et 30 ans, c'est beaucoup de gens qui ont déjà une situation familiale ou qui sont en reconversion professionnelle qui ne leur permet pas de bouger. Donc je ne sais pas s'ils comptent supprimer, comme on entend de plus en plus, hein, supprimer les concours et qu'il n'y ait que des contractuels. Il faut être motivé par ce métier, voilà, parce qu'il y a quelques inconvénients à côté aussi.
D'Aurillac à 200 bornes.
Toujours motivé, Rabah Arfaoui a commencé il y a 10 ans par des remplacements.
Non.
C'était chouette.
Je suis heureux dans mon métier.
Je te verrais bien à 65 ans avec ton déambulateur. À venir en cours et à faire cours.
Oui, oui, oui.
Je quitterai pas mon métier, hein, jusqu'au bout, ouais, je pense.
Non, moi non. Je trouve que la profession, elle a trop changé.
Béatrice, professeure d'espagnol depuis 18 ans, dit qu'elle n'a plus la foi.
Les élèves, ils sont dans une optique de... On attend qu'on nous fasse le travail. Et puis en plus, on n'est pas non plus super épaulé par leurs parents. On est sans cesse... remis en question sur notre pédagogie, sur les apprentissages qu'on fait passer. Moi, je suis déjà en train de regarder pour une reconversion dans des entreprises qui travailleraient avec l'Espagne, bien entendu. Le commerce international, quelque chose qui m'extrait en fait de l'enseignement, quoi.
Face à nos difficultés, on ne propose aucune solution. On n'est pas la priorité, en fait.
Élise, Nathalie, Johan et leurs collègues ont le sentiment de ne pas être suffisamment écoutés pendant cette campagne présidentielle. Pour eux, les candidats passent à côté des vrais enjeux de l'éducation.
Qui veut encore être prof ? C'est un des épisodes de notre feuilleton de la France. C'est aussi un sujet dont il a été question lors de cette campagne, tout comme il a été question du déséquilibre des territoires, comme on va le voir juste après.
Rien peut me ramener plus en arrière que l'odeur de la pâte à modeler. Maman est prof de maternelle, c'est même la maîtresse d'à côté. J'ai 5 ans et je passe par la fenêtre pour aller me planquer dans sa classe. Elle me dit t'es pas censé être là, j'ai des prêts de toi, c'est à ma place. J'aime que les livres, je préfère être seul, donc je suis plus content quand il pleut. Je fais quelques cours de catéchisme, mais je suis pas sûr de croire en Dieu. J'ai 7 ans, la vie est facile, quand je sais pas, je demande à ma mère. Un jour elle m'a dit je sais pas tout, j'ai perdu foi en l'univers. À 5 ans, je voulais juste en avoir 7. À 7 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. À ce qui qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Je balaye les feuilles mortes sur le terrain. Le froid me fait des cloques sur les mains. J'ai 10 ans, je suis fan de basket. Je m'habille en petit américain. Mon père, mon héros, m'a offert les Jordan 8 avec les scratchs. Donc je fais tout pour le rendre fier. Quand il vient me voir à tous les matchs, je rentre au collège, on me traite de bourge. Normal, mes chaussures coûtent une blinde. Je veux plus les mettre, mon père s'énerve. Toi, toi, tout, nous, on n'avait rien. J'ai 12 ans, je fous le bordel en cours pour essayer de me faire des potes. Le prof de musique se fout en l'air, il est au paradis des profs. À 11 ans, je voulais juste en avoir 13. À 13 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Souvent, je suis tombé amoureux, mais pour une fois, c'est réciproque. J'abandonne lâchement tous mes potes. Je vois plus que ma meuf, on fume des clopes. 14 ans, je suis juste un fantôme. Du moins, c'est ce que disent mes parents. Chérie veut que je traîne plus qu'avec elle. Pourtant, elle me fait la gueule tout le temps. Vu que je déménage, ça nous sépare. Je me dis que l'amour, c'est surcoté. Mon frangin m'éclate au basket. Alors je préfère abandonner. J'ai 15 ans, je regarde Kids en boucle. Je traîne avec des gars comme Casper. Mon père est sévère avec moi, donc je le répercute sur mon frère. À 15 ans, je voulais juste en avoir 16. À 16 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Je descends les marches, la peur au ventre, pour intercepter mon bulletin. À la maison, c'est la guerre froide, on se comprend plus donc je dis plus rien. J'ai 16 ans et je passe par la fenêtre pour rejoindre les autres au skatepark. On boit des bières, on fume des joints et je raconte tout ça dans mes raps. Les années passent, même un peu trop, au point que j'ose plus chanter mon âge. Mon frangin filme quand je mets la bague, ma frangine anime le mariage. Les choses que j'ose dire à personne sont les mêmes qui remplissent des salles. Maman est là, mon père est fier et l'univers est pas si mal. À 16 ans, je voulais juste avoir 17. 17 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. À 5 ans, je voulais juste en avoir 7. À 7 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête.
C'était Aurel San, La Quête.
France Inter, le feuilleton de la France.
Vous êtes toujours sur France Inter dans ce que l'on pourrait appeler une balade en France. Rediffusion jusqu'à 19h de notre feuilleton de la France réalisé à l'occasion des élections. Sans attendre la guerre en Ukraine et ses conséquences sur le prix des carburants, la question du pouvoir d'achat était déjà là il y a 3 mois lorsque Claire Chaudière s'est rendue début janvier à Bouilly dans l'Aube, tout près de Troyes. Elle était dans tous les esprits lorsque le camion boutique itinérant qui vend des vêtements d'occasion s'est arrêté juste derrière la mairie.
Le feuilleton de la France.
À Bouilly, dans l'Aube.
Hop, manteau fourré bien fermé qu'elle ne quittera pas de la journée, cheveux bruns attachés en arrière et regard tonique, Armelle Duval déplie l'escalier en fer à l'arrière de son camion qui permettra d'ici quelques minutes aux clients d'accéder à sa caverne d'Ali Baba.
C'est ça, c'est ce que souvent les clients disent, on se rend dans la caverne d'Ali Baba.
La partie occasion est accessible.
La lumière est apparue, voilà, avec des petites guirlandes lumineuses.
Une clientèle de tous âges avec un point commun, la recherche de petits prix.
C'est-à-dire qu'en fait, on a beaucoup de gens qui travaillent mais qui ont des petits revenus. Bonjour, vous voulez entrer, mesdames?
Je viens voir pour ma petite fille.
Oui, dites-moi.
8 ans.
800.
J'ai des choses comme ça, il n'y a pas de bouton.
Oui, super.
Là, je suis à 4 euros.
D'accord.
Voilà. Flora, la soixantaine, livre les journaux le matin à 3 avant de faire des ménages l'après-midi.
On fait attention à tout. Je vais acheter un pantalon à 4 euros parce que j'ai les moyens de l'acheter à 4 euros. Si je n'ai pas les moyens de mettre 15 euros, je ne vais pas aller en grande surface par rapport au prix du carburant. Si on doit aller à 3, on va regrouper les achats, puis on roule pas dans les voitures électriques, parce que c'est pas pour nous non plus. C'est chouette, c'est bien, mais il faut le salaire qui va avec.
Alors, ça fait un total de 37 euros, s'il vous plaît.
Aussi bien chez les gens qui ont peu de moyens que chez les gens dits de classe moyenne. Le plein d'essence qui augmente comme il augmente récemment, c'est un vrai budget. Quand à la fin du mois, il n'y a plus rien parce qu'on a tout mis dans les frais qui permettent de vivre au quotidien, et ben on se replie sur l'occasion. Malgré tout ce que les politiques peuvent dire, je suis désolée, le pouvoir d'achat dégringole. J'ai beaucoup, beaucoup de clientes qui partent pas en vacances. C'est des gens qui partaient avant.
J'achète jamais un habit au prix normal.
Expert comptable, Claire a vu son budget grignoter ces derniers mois.
On voit bien les courses, c'est entre 20 et 30 euros de plus par semaine, en prenant tout le temps les mêmes choses. Hein. Sur l'alimentaire, ouais, c'est vachement augmenté.
Dans un coin du camion boutique, quelques objets de créateurs locaux.
25 euros.
Oh, ouais, cher.
On prend et on repose parfois sur le comptoir lorsqu'on se laisse surprendre par un montant sur une étiquette.
Ouais, je la prends pas, non.
Bon,
je m'excuse.
Pour reprendre le terme de toutes ces dames, on fait tous attention à notre budget. On est de plus en plus sur le fil du rasoir, entre guillemets, au niveau budgétaire. Surtout la dernière semaine du mois, là, en général, ça se calme furieusement.
On essaie le sans contact.
Ça fonctionne pas.
Ça fonctionne pas.
Revendre soi-même ces articles qu'on a achetés parfois d'occasion, donc c'est de la troisième, de la quatrième main. Voilà, c'est de la petite bricole, mais les gens n'ont pas le choix.
Je suis venue amener des articles que je me ne servais plus par rapport à mes petits-enfants.
Puis c'est vrai que c'est quand même un lieu vivant. On discute.
Un lieu vivant où les envies, l'inventivité, mais aussi les désillusions, où les colères se croisent et se partagent.
Voilà, le salaire, ils font comme neige au soleil. Je suis assistante de direction. Je ne crois plus en tous nos politiciens. Ce qu'ils veulent, c'est la place. Il n'y a pas d'égalité en France. La devise, il faudrait la refaire.
Merci, au revoir.
Les gens fatiguent, les gens s'épuisent. Même si l'État a beaucoup pallié au manque à gagner, quand on est en chômage partiel pendant des mois, c'est très compliqué, financièrement parlant, tout n'a pas été rose pour tout le monde, on va dire. Chacun se débrouille comme il peut avec les moyens dont il dispose pour se sortir de la tête de l'eau. Après, un état sauveur, je crois qu'aujourd'hui, je n'y crois plus trop.
18h déjà, la nuit tombe sur le camion d'Armel. La conversation se poursuivra demain avec d'autres habitués à 35 km de là, dans l'Yonne cette fois. Étape à Saint-Florentin, sourit cette commerçante. 4000 habitants, dont de nombreux ménages, dit-elle, au budget tout aussi serré.
Autre conversation qui revient, y compris dans les zones les plus tranquilles, entre guillemets, la question de la sécurité. C'est le cas à Vestric et Candiac, petite commune de 1400 habitants située à une vingtaine de kilomètres de Nîmes, dans le Gard. Là-bas, certains s'organisent et se regroupent pour préserver la paix du village. C'est un reportage d'Ariane Grissel.
Le feuilleton de la France à Vestric et Candiac.
Ça fait plus de 30 ans que Serge Lorca vit à Vestric et Candiac. Son grand-père a travaillé ici, son père y est allé à l'école, et pour lui...
On n'est pas une commune dortoir comme Millau où les gens rentrent que le soir coucher et tout ça. Donc il y a quand même une vie. Ça reste esprit village, clocher. Et je pense que ouais, pour moi, c'est ce que j'aimerais garder.
Même état d'esprit pour Manuel Prazeres et Claude Capot.
Ce qu'on recherche, c'est le calme et la tranquillité. Donc on voit ce qui se passe dans les grandes villes, on n'en veut pas.
Oui, tout à fait. Moi, je veux pas que pour un jour de l'an, il y a des voitures qui brûlent. On reste un petit village tranquille, serein, et que ça continue comme ça.
Alors, pour contribuer à préserver cette tranquillité, les trois hommes se sont inscrits au dispositif Participation Citoyenne, qui existe un peu partout en France. Des habitants se proposent de veiller bénévolement à la sécurité de leur commune.
On a des numéros privilégiés, le chef de la police municipale de Vestric, la gendarmerie de Bernis, entre autres. Et on prévient, ou on nous prévient, lorsqu'il y a un délit qui s'est fait ou qui va se faire, ou une recherche sur le village.
Bon, c'est vrai que pour vivre plus sereinement, j'ai le voisin qui part en vacances. Bon, il me dit, je ne suis pas là, si tu peux un peu regarder la maison, voir s'il n'y a pas un camion de déménageur qui arrive, des trucs comme ça. Donc c'est bien pour ça.
C'est fréquent les cambriolages dans le coin ?
Il y en a quelques-uns. Bon, en ce moment, c'est surtout vol de gasoil, je crois. Je pense qu'en ce moment, le gasoil, c'est pas mal.
9 bénévoles en tout pour un village de 1400 habitants. Ici, le système existe depuis 4 ans, indépendamment du calendrier politique parisien.
Dans tous les programmes, il y a un sujet sur la délinquance, sur toutes les incivilités. Après, savoir si on aura les moyens de le mettre en œuvre. Nous, on a devancé la commune et comme les communes voisines, de le faire par nous-mêmes. Vaut mieux prévenir que guérir. On ne s'en porte pas plus mal. Mais on devrait être beaucoup plus nombreux, parce que c'est le devoir de chaque citoyen, pas de dénoncer, parce que c'est pas notre rôle de dénoncer, mais de signaler des incivilités qui nous dérangent, oui.
Et il n'y a pas que les vols qui peuvent nuire à la tranquillité d'un village. Agnès Nectou est la première adjointe du maire de Vestric.
Il y a quelques petits cambriolages, mais surtout des incivilités. Les dépôts d'ordures, d'immondices un peu partout, à côté des conteneurs qui sont prévus déjà pour ça. On a une belle garrigue, mais il y a souvent on retrouve des frigidaires, toutes espèces de choses. Donc c'est ça, moi je trouve que c'est ce qui est le plus désolant, c'est ça. Que les gens ne respectent pas leur village, ne respectent pas...
Un policier municipal veille également à la sécurité de la commune. Manuel Prazeres, inscrit à la participation citoyenne, aurait souhaité un système supplémentaire.
Au niveau sécurité, ça serait bien qu'on inclue la vidéosurveillance dans toutes les villes et villages. Il n'y a pas besoin d'avoir un PC, il suffit qu'il y ait quelques personnes qui aient un code d'accès à la vidéosurveillance pour surveiller. Tout le monde pourrait le faire, quoi.
Trop cher à mettre en place avec les seuls fonds d'une commune d'un millier d'habitants. Agnès Nectou, la première adjointe.
On avait fait faire une étude et je crois que c'était un peu plus de 100 000 euros pour équiper le village en caméra dans les points sensibles. Notre budget ne nous l'a pas permis, quoi. On n'avait pas droit à des subventions, donc c'est pour ça qu'on a abandonné le projet.
Qu'est-ce qui vous aurait rassuré là-dedans dans ce dispositif de vidéosurveillance ?
Quand les gens savent qu'il y a ce système, je pense que les gens font plus attention aussi. Bon, peut-être pas dans les villages où ils savent qu'ils sont surveillés. Bon, même si je sais que dans les villages voisins, il y a malgré tout des cambriolages, même s'il y a des caméras.
À Vestric et Candiac, les bénévoles de la participation citoyenne espèrent que les personnes mal intentionnées sont aussi découragées par le fait de savoir que des habitants veillent sur leur village.
On remonte dans l'Aisne à présent pour notre dernière étape en zone rurale avec une question qui a pris encore plus de place ces deux dernières années avec la crise du Covid, celle de l'accès au numérique. C'est d'autant plus vrai que désormais les démarches les plus essentielles se font en ligne. La défenseure des droits a d'ailleurs alerté à ce sujet. Un Français sur six est victime d'illectronisme. Alors des collectivités et des organismes se mobilisent pour un égal accès à l'outil informatique. Exemple à Saint-Terme-Outre et Ramcourt, à 20 km de Laon, dans l'Aisne. Reportage signé Rémi Brancato.
Le feuilleton de la France.
À Saint-Terme-Outre et Ramcourt, dans l'Aisne.
Chantal Jacqueminet, 77 ans, a mis ses lunettes rondes pour aller sur Internet.
Je me suis acheté une tablette, mais c'est encore un peu trop compliqué pour moi.
Et pour nous montrer ses difficultés.
D'habitude, quand je l'ouvre, la page d'accueil, elle se met. Mais là, rien à faire. Voilà, oh, c'est pas vrai. Je vais appuyer là. Vous voyez, pourquoi elle fait ça, on n'en sait rien.
Vous bataillez souvent comme ça avec votre tablette?
Oui.
Donc là, vous cherchez à faire quoi?
Eh bien, à trouver Doctolib. Pour m'en servir, pour prendre un rendez-vous. Puisque maintenant, quand on téléphone, il faut souvent passer par Doctolib. On déshumanise les gens, je trouve. Alors, je laisse tomber, il y a des fois, je me déplace, je vais chercher un rendez-vous.
À Saint-Terme, Outre et Ramcourt, 2000 habitants, dans l'Aisne, bien raccordés à la fibre, il n'y a pourtant pas que Chantal qui galère. Amandine, on est dans votre salon. Pour vous connecter à Internet, de quels moyens vous disposez, en fait ?
D'un smartphone, uniquement un smartphone. Un ordinateur, ça serait fortement recommandé. Je ne peux pas me permettre d'acheter un ordinateur. Là, actuellement, au chômage, je suis à 1080 euros par mois, seule avec deux enfants, oui. Alors là, c'est l'application Pôle emploi, en fait. Et quand je dois transférer des documents, je ne peux pas transférer les documents via mon smartphone parce qu'ils me disent que les documents ne sont pas lisibles, ne sont pas conformes, donc ça ne passe jamais.
Heureusement, Amandine n'est pas seule. On se retrouve devant le Fais tout connecté. C'est un lieu, Amandine, où vous venez trouver de l'aide.
C'est ça.
Bonjour.
Sandrine Forgeant, donc je suis médiatrice socio-numérique pour la communauté de communes. Et Amandine fréquente vraiment le France Service pour l'inscription au Pôle emploi, pour télécharger ses attestations.
J'avoue que j'étais un peu perdue, quoi. C'est pas, si on se trompe, on transmet la mauvaise attestation, le dossier il est recalé.
je me suis dit, tu vas être embêtée.
Alors le Fais Tout Connecté, ce lieu labellisé France Service par l'État, regroupe un accès à plusieurs services publics et répond à toutes les demandes.
Personne, tu me sauves.
Oh, respire.
Alice, la trentaine, est une habituée. Elle doit candidater rapidement pour un emploi.
Sur mon CV, pour ajouter certains éléments supplémentaires, en fait.
Word n'a pas voulu rouvrir ton...
Ouais, c'est ça, exactement.
Donc c'est celui que j'ai ouvert là dans Word.
Ouais.
Vous avez eu du mal à ouvrir un fichier Word, c'est ça.
Et puis après, à le convertir.
On a tendance à penser que pour les jeunes, c'est évident, mais c'est pas forcément le cas.
Tout n'est pas évident. Je me suis dit, en venant au Fais Tout, ce sera plus rapide, en fait.
D'autant qu'ici, les administrations sont souvent trop loin, jusqu'à 150 km pour une caisse de retraite.
J'avais été au Pôle emploi à Laon et les services étaient indisponibles.
Hervé Lefebvre est contraint de demander de l'aide à Sandrine.
On est tout seul devant notre écran et puis il y a des trucs qu'on comprend pas. C'est plus pratique de venir ici.
Selon l'INSEE, 17% des Français sont touchés par l'électronisme, cet illettrisme électronique. Sandrine s'y confronte tous les jours.
C'est la peur de se tromper. Ils s'engagent avec une machine et ça fait peur. Avant, c'est vrai, c'est l'administration qui faisait à la place d'eux. Maintenant, on leur demande de faire les papiers administratifs, de réaliser en ligne sa carte d'identité, son permis, sa demande de retraite. Tout ça, ça s'apprend.
Et pour mieux l'apprendre, ici, Bruno Van Nuytrek, animateur Nouvelle Technologie, propose à tous des formations gratuites.
On va peut-être toucher une personne pour sa déclaration CAF. Et puis, on se rend compte que la difficulté qu'il a rencontrée, c'était pas qu'il ne comprenait pas les papiers qu'il devait faire, c'était qu'il n'avait pas de partenaire qui pouvait l'aider à faire la démarche physiquement parlant.
Une aide précieuse pour environ 250 habitants de ce territoire rural chaque année pour réduire un peu la fracture grandissante avec les services publics.
Et n'allez pas croire que cela ne concerne que les zones rurales. La question se pose aussi en zone urbaine. Autant dire qu'on n'a pas fini d'en parler. Troisième et dernière partie de cette émission dans laquelle nous rediffusons les épisodes du Feuilleton de la France que vous avez pu entendre sur notre antenne depuis début janvier. Le lien social que certains préfèrent appeler le vivre ensemble. Vaste sujet qui comprend notamment la question des relations hommes-femmes. On a beaucoup parlé de MeToo et de son impact, le débat reste ouvert. Une chose est sûre, ce mouvement a permis de libérer la parole et de mettre dans certains cas un terme à des pratiques inacceptables. Cela dit, ça ne s'est pas fait sans mal. Les femmes de chambre de l'hôtel Ibis des Batignolles à Paris en savent quelque chose. Ce reportage de Mathilde Dehimi vaut tous les discours en la matière. Alors allons les écouter dans les locaux de la CGT à Clichy.
Le feuilleton de la France. À Clichy, dans le Haut-de-Seine.
Entre elles, elles s'appellent camarades ou copines.
Hello, ça va
ouais, et toi ouais. Là, t'as une belle taille, là.
Rachel, Inès et Sylvie travaillent dans des hôtels de moyenne gamme. Elles ont 8 à 20 ans de métier. Ce local CGT, c'est leur lieu de détente.
Donc, il y a un coin cuisine. La machine à café, elle est juste derrière.
Après l'affaire des SK à New York et surtout le mouvement MeToo, elles ont l'impression qu'on les écoute un peu plus.
Il y a eu une libération de la parole sur un sujet qui était jusqu'à présent tabou. Et qui a fait venir en surface tout l'envers du décor.
Quand tu arrives, tu tapes 3 fois, ils disent rien, tu ouvres la porte, tombes dessus, ils font l'amour, soit ils te montrent sans cesse.
Mais excusez-moi, je tape, rentrez, ça ne nous gêne pas.
Oui.
Ouais, peut-être vous, mais moi, oui. Vous n'avez pas à subir ça sur un lieu de travail.
Dans le métier que nous faisons, les clients se permettent tout. Ils pensent que la femme de chambre, c'est un objet pour eux, c'est leur chose. Il y a des clients qui peuvent te dire, je vais te donner 200 euros, tu peux venir dans ma chambre.
Voilà, ils te touchent les seins. Parfois, ils te giflent sur les fesses. Oui. Après, ils te posent la question, vous voulez combien? Je ne suis pas une marchandise, moi.
Ils sont libres de faire tout ce qu'ils ont envie parce qu'ils savent que derrière, on n'est pas protégé. On a même une collègue aussi qui a été violée par l'ancien directeur de l'hôtel Ibis Les Batignolles.
Leur ancien directeur est mis en examen pour viol. Il comparaîtra bientôt aux assises. Les clients qui ont agressé Rachel et les autres femmes de chambre n'ont jamais été poursuivis.
Il y a beaucoup de femmes qui traversent ça, mais qui ont peur, qui ont honte d'en parler.
Tout à fait.
Tu te dis, si je le dis, ça sera sa parole contre ma parole. Et lui, s'il a l'argent, moi, je tombe. On essaie de parler avec les copines, mais après, ça s'arrête là, quoi. Mais nous, on ne veut pas que ça s'arrête là. On veut que ça se propage un peu, qu'ils puissent nous écouter, nous qui travaillons dans les étages, s'ils peuvent prendre le temps, que ça soit du côté de l'hôtellerie, que ça soit du côté de la sous-traitance, de ne pas voir tout le temps l'argent qui rentre, de voir aussi la santé, l'état d'esprit des femmes de chambre aussi.
Elles débattent. Rachel pousse à libérer la parole.
Voilà, donc c'est pour ça que je dis, moi, on m'a touché des seins. Les gens me disent, mais tu n'as pas honte de parler. Je dis non, il faut que je dénonce, il faut que je parle. Moi, je m'en fous de mon image.
Mais Inès, reste prudente.
Oui, pour parler, on parle. Pour dénoncer, on dénonce. Mais qu'est-ce qu'il a derrière?
Bah oui.
Ils nous ont dit, allez dénoncer. Eh bien, voilà. Dans mon cas précis à moi, deux commissariats, ils ont refusé ma plainte. Donc, vous vous trouvez tout seul à un moment donné, à monter des dossiers, vous faites aider, etc. Mais vous vous trouvez dans un combat, c'est David et Goliath, quoi. Il faut sensibiliser, il faut intervenir dans les écoles, il faut intervenir dans les entreprises.
Moi, j'ai jamais été formée.
Quand un client se comporte mal, elles font circuler entre elles son numéro de chambre. Elles sont aussi plus vigilantes pour les clientes de leurs hôtels.
Dans une chambre, il y avait un couple, mais je pense qu'il y avait la violence. La femme, elle criait tellement. Et moi, j'ai frappé à la porte. Je pense que peut-être que le monsieur, il a eu peur. Et j'ai pris le téléphone, j'ai appelé ma responsable.
On a vu la détresse chez des femmes, que ça n'allait pas du tout. Il y a les yeux qui parlent pour elles, parce que souvent, il y a des larmes dans les yeux, des larmes qui ne coulent pas. Donc moi, ça m'est arrivé personnellement d'appeler aussi la police. Hein.
Voilà. Toutes les trois sont aussi attentives à ce que disent les candidats à la présidentielle sur la question des violences sexuelles.
La société, ils nous voient des femmes de chambre non instruites. Ça dit on est classé au niveau le plus bas de l'échelle. Des petites mains invisibles qu'on ne voit pas, que les gens dévalorisent.
Les clients ne sont pas encore tous revenus, mais Sylvie espère qu'après MeToo et leur travail de seconde ligne pendant la crise Covid, le regard de la société va changer.
Je vous avais dit que c'était édifiant et il reste du travail. Rien de tel que la culture pour mettre tout le monde d'accord, et surtout la musique, et plus encore la musique d'ensemble. Alors on va terminer ce Tour de France en fanfare, grâce à Béatrice Duguet, direction Chabeuil, dans la Drôme.
Le feuilleton de la France.
À Chabeuil, dans la Drôme, avec la banda Los Cayetos.
Au fond de la salle, à droite de la batterie et du trombone, Laurent, 46 ans, un gaillard, barbu et jovial. Car il faut du physique pour l'instrument volumineux dont il joue.
Moi, j'ai du sous-bassophone.
Le seul cuivre dans lequel un musicien se glisse. Laurent est l'un des piliers de Los Cayetos, avec Didier, le vice-président de l'association.
On se connaît depuis combien de temps?
Plus de 40 ans, monsieur dame.
C'est nos parents qui nous ont mis dans une fanfare à l'origine, c'était pour avoir des copains, voilà, c'était pas pour faire du conservatoire, et être tout seul avec son instrument, et se retrouver comme un con, chez soi, voilà.
Ouais. Non, bah, des fois, quand il y a longtemps qu'on n'a pas joué comme ça, c'est vrai qu'on le sent au niveau du souffle. Quand il y a des tenues ou des morceaux sur lesquels on n'a pas trop le temps de respirer.
La répétition du mercredi soir est invariablement cochée sur les agendas de Viviane et ses amis. Pour la musique évidemment, pour boire un verre après, pour se raconter le quotidien aussi.
Des chèvres ou des chevaux? Un bouquet, c'est le jeu de chevaux.
Il est papa. Quatre chevrettes.
C'est très très bon aussi pour le mental. Et même si des fois on dit oh là, j'ai pas envie de sortir parce que voilà, il fait nuit, parce qu'il fait froid, parce que... après on est content.
Et puis les copains,
quand on se voit pas, ça manque, hein, c'est vrai.
Ça y est, sa famille.
C'est les Roubettes, années 70.
Sugar Baby Love.
Pas de tête.
Exactement.
Et il est bien.
Le groupe a survécu aux restrictions du Covid, ce qui n'est pas le cas d'autres formations dans ce département de la Drôme où le taux de vaccination est inférieur à la moyenne nationale.
Je connais des groupes de percussion où y en a pas mal qui n'étaient pas vaccinés.
Il y a beaucoup qui ont perdu de l'effectif.
Du coup, il y a une fracture.
Los Cayetos, eux, sont là. Un groupe Facebook et une messagerie commune leur permettent d'échanger des informations pratiques. Pour le reste...
Le but, c'est de se retrouver ensemble, quoi. Ouais. C'est pas encore de se mettre derrière un écran. Peut-être que de l'extérieur, ça peut paraître entre guillemets ringard de jouer dans des petits groupes, comme vous dites, à l'heure des écrans. Et nous, on ne se pose pas de questions. Et puis en même temps, les villages, s'il n'y a pas de musique dans une fête, c'est triste. Un DJ, c'est bien, mais c'est pas pareil.
Vous avez vu, on a un répertoire varié quand même.
Ouais. C'est vivant, quoi.
Vivant parce que Los Cayetos défilent en musique et qu'ils sont attendus dans les villages alentours où les corsos, les fêtes locales, reprennent après 2 ans de disette.
Bon, nous, des fois, on n'est pas toujours peut-être nickel, mais l'avantage, c'est que voilà, on transmet quand même voilà, quelque chose. Nous, on prend plaisir.
La joie et de la bonne humeur.
Et ouais. C'est vrai que les gens aussi.
Tant qu'on se fait plaisir, les gens le ressentent. Et les gens ont de l'ambiance, vont danser. Et...
C'est vrai que la sortie qu'on a fait à Saillant, là, la première, c'était extraordinaire.
C'est une communion, voilà, on échange, on discute avec les gens qu'on ne connaît pas. Quoi. Cette musique apporte des relations qu'on n'a pas autrement.
Même les gens, à la fin, ils nous, limite, nous couraient derrière en disant merci, merci. On avait l'impression d'être des vedettes.
Dans la vie, ils sont informaticiens, comptables, architectes. architectes d'intérieur, infirmiers, retraités. Et ils sont donc faiseurs de joie. La moyenne d'âge leur permet de voir venir un peu mieux que d'autres fanfares.
La fanfare de Huppy, ils ont arrêté. Ça faisait 140 ans qu'ils existaient. C'était vieillissant. Il n'y avait plus de personnes derrière, de bénévoles pour tenir tout ça.
Et puis le problème, c'est que nous, ce n'est pas le mercredi après-midi quand ça arrange aussi certains parents. Ah oui. Donc ça veut dire que c'est le soir. C'est vrai que les gamins plus jeunes, bah, les parents, ça les fait chier de ressortir à 10h du soir pour les emmener.
Manière de dire que la vie sociale et les bonheurs qu'elle procure demandent des efforts.
Moi, je dis que c'était pas trop mal.
Un immense merci à Béatrice Duguay et à tous les reporters de France Inter qui vous ont offert ce feuilleton de la France. Ariane Grissel, Sonia Princé, Delphine Evenoux, Claire Chaudière, Mathilde Dehimy et Rémi Brancato. Allez, une petite dernière pour la route. Ces reportages grand format, vous pouvez les retrouver sur notre site franceinter.fr à la rubrique Zoom de la rédaction. On vous en rediffusera d'autres dimanche dans 2 semaines. Pour ma part, je vous retrouve dans un peu plus d'1 heure avec Jérôme Cadet et tout le service politique de France Inter pour notre grande soirée électorale consacrée au premier tour de la présidentielle.